Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler d'une articulation complexe composée d'os, de cartilages, de ménisques, de ligaments, autrement dit nos genoux. Les atteintes du genou peuvent être liées à des chocs, des traumatismes ou à un vieillissement précoce ou non, en fonction d'une maladie ou d'une sollicitation intensive. Prendre soin de ses genoux, c'est d'abord identifier les signaux d'alerte, douleur, gonflement, sensations inhabituelles. En cas de pratique sportive, comment prévenir le risque de traumatisme et quels symptômes doivent pousser à consulter sans délai? Avec nos invités, nous allons parler de la chirurgie du genou. Quelles sont ses indications? Dans quel cas la pose d'une prothèse est-elle recommandée? Santé des genoux, prévention, réparation, mais aussi rééducation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 71 18 46 41. Qu'est-ce qui peut fragiliser les genoux? Est-ce que certaines activités sportives sont déconseillées lorsque l'on présente un problème et donc une fragilité antérieure à ce niveau? On vous retrouve dans les studios de RFI. Docteur Patrick Djian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue à la clinique Nolé à Paris et vous enseignez, docteur Djian, à la faculté Paris-Descartes et à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. On joindra tout à l'heure au Sénégal le professeur Mouhamadou Habib Sy, chirurgien orthopédiste et enseignant-chercheur, directeur de l'Institut d'orthopédie Seydi Djamil de Dakar. Et puis en fin d'émission, à l'occasion du Mois du cœur, nous allons parler de la prévention des affections cardiovasculaires, protéger son cœur sans culpabiliser, avec le président de la Fondation Cœur et Recherche, le professeur Ariel Cohen, qui est chef de service de cardiologie à l'hôpital Saint-Antoine, hôpital Tonon à Paris, à l'initiative donc de ce mois de sensibilisation.
Priorité santé sur RFI.
Alors le genou, chirurgie du genou qui occupe donc l'essentiel de votre activité, docteur Patrick Djian, petite leçon d'anatomie, on commence souvent par là dans cette émission, si vous le voulez bien, une articulation complexe, est-ce que vous pouvez nous en détailler les principaux éléments constitutifs? C'est fabriqué comment un genou?
Un genou, c'est fabriqué de trois pièces osseuses que sont l'extrémité inférieure du fémur, la patella ou la rotule et puis l'extrémité supérieure du tibia. Et pour unir ces trois éléments, il y a des ligaments que sont les ligaments croisés qu'on connaît bien, antérieurs, postérieurs, les ligaments latéraux, collatéral médial et collatéral latéral et ensuite des ménisques qui sont interposés entre le fémur et le tibia et qui permettent d'amortir un petit peu et de permettre la mobilisation de cette articulation. Et puis la rotule, elle est tenue par un appareil extenseur qui est essentiellement des tendons, un tendon quadricipital, et puis un ligament patellaire ou tendon rotulien qui permet d'unir cet appareil extenseur au niveau de la tuberosité tibiale, qui est l'extrémité supérieure du tibia.
Alors, est-ce qu'il y a parmi ces différentes parties du genou, j'ai entendu ménisque, ça ressemble à quoi? Ménisque, c'est un petit coussinet?
Alors les ménisques, c'est des espèces de croissants qui sont interposés entre fémur et tibia, qui sont effectivement comme des coussinets, c'est du fibrocartilage qui permet d'amortir en fait les chocs entre le fémur et le tibia.
Alors est-ce qu'il y a justement une de ces zones du genou qui est plus fragile au sens où elle présente plus de risques d'usure, de douleur ou de rupture?
Alors, l'extrémité inférieure du fémur et l'extrémité supérieure du tibia sont les zones qui sont le plus exposées à des traumatismes ou micro-traumatismes, ça dépend. Et c'est là-dessus qu'on va agir le plus souvent. La rotule, elle est aussi le témoin de pathologie, mais un peu moindre lorsqu'on regarde toute la pathologie en fait, du genou.
Alors justement, quand on vous entend, docteur Patrick Djian, on peut bien imaginer qu'en termes d'atteinte, vous allez soigner aussi bien du chronique que de l'aigu, c'est-à-dire des affections au long cours, une usure, aussi, il peut y avoir l'âge, mais pas seulement, et puis des accidents.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on distingue les micro-traumatismes, qui sont des traumatismes relativement peu importants et qui vont provoquer une usure ou des lésions. Et puis un traumatisme, par exemple une fracture, par exemple une rupture ligamentaire, qui permet effectivement d'obtenir un traitement particulier. Donc on va avoir deux types de situations. Les micro-traumatismes, par exemple les sportifs qui font du sport régulièrement, sont soumis à des micro-traumatismes répétés qui peuvent engendrer des pathologies. Et le traumatisme pur, la fracture ou la rupture ligamentaire, est un autre mode d'entrée dans la maladie.
Est-ce que le facteur de l'âge, c'est essentiel ? Est-ce que certaines atteintes sont vraiment beaucoup plus fréquentes à certains moments de la vie ?
Oui, bien sûr. Oui, vous allez avoir bien souvent des ruptures ligamentaires lorsqu'on est jeune, lorsqu'on fait du sport, on a des ruptures ligamentaires. Et lorsqu'on approche la cinquantaine, on a des usures, on va dire, cartilagineuses qui commencent à apparaître et qui sont le fait de l'âge et de l'activité tout au long de la vie.
Quand on dit arthrose du genou, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'arthrose du genou est définie par des lésions cartilagineuses en miroir, c'est-à-dire au niveau du fémur et du tibia, et qui provoque essentiellement des douleurs, un enraidissement, et ceci est relativement fréquent aujourd'hui.
Alors, question d'un auditeur du Burkina Faso, Prince Eli demande quel sport conseiller à une personne qui souffre précisément d'arthrose du genou ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on sait qu'il faut continuer une activité physique lorsqu'on a une arthrose. Il ne faut surtout pas se mettre au repos. La douleur est un symptôme, effectivement, de l'arthrose. Mais si vous continuez à faire une activité physique et à mobiliser vos articulations, vous allez pouvoir garder cette articulation beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'avant, les gens, dès qu'ils avaient mal, se mettaient au repos. Et là, on observe une augmentation, en fait, des lésions cartilagineuses, alors que la mobilisation de l'articulation permet d'être pérenne dans le futur.
Ça veut dire qu'on continue une activité, mais pas quelque chose qui est trop traumatique.
Non, bien
sûr. On va éviter, par exemple, de courir sur un sol très dur. On va éviter ce genre de choses.
Oui, bien sûr. Il faut changer d'activité à ce moment-là. Lorsqu'on a une arthrose naissante, débutante, il faut privilégier les activités non portées. Par exemple, le vélo, la natation, qui sont des activités douces qui permettent de mobiliser effectivement les articulations en évitant les chocs.
Alors, quand on parle de chirurgie du genou, on le disait, hein, c'est votre spécialité, docteur Dian. Est-ce que c'est une chirurgie de dernier recours ? Ou est-ce qu'on va dire, entre guillemets, d'entretien, au sens où cette intervention peut freiner l'évolution de certaines maladies, voire éviter des complications ?
Alors, ça dépend un petit peu le contexte. Si vous êtes dans un contexte traumatique pur, par exemple une fracture, ça sera la première solution, en fait, la chirurgie, car la destruction de l'articulation et de l'anatomie articulaire fait qu'on va agir chirurgicalement. Donc là, je répondrai que c'est le premier traitement. Par contre, si on a une atteinte dégénérative par micro-traumatisme, c'est une chirurgie qui sera en dernier recours à ce moment-là. Et les traitements médicaux ont toute leur place à ce moment-là.
Alors, on va prendre tout de suite un auditeur en ligne. Un premier auditeur, on part pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé. FM.
Et avec nous, c'est Gervais. Gervais, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, Gervais, vous avez 45 ans. Vous, c'est suite à un accident de la circulation que vous avez aujourd'hui encore un problème au genou. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer à quand cela remonte et ce qui s'est passé précisément ?
D'accord. Merci, Caroline. Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, ensemble, auditeurs de RFI. J'appelle depuis le Cameroun, je l'ai signifié. Alors, je souhaite intervenir pour raconter un peu ce que j'ai vécu il y a de cela 10 ans. Mm-hmm. Alors, à l'époque, j'allais en scooter pour mes déplacements et un matin, en mai 2014 précisément, j'ai violemment été percuté à la sortie d'une station par un motocycliste. Et le choc a été tellement violent que j'ai dû être secouru et transporté dans une clinique pas loin du lieu de l'accident.
Est-ce que vous vous souvenez, Gervais, à ce moment-là, ce qu'ont dit les médecins ? Est-ce qu'ils ont mis un nom sur votre traumatisme, sur cette blessure du genou ?
Bon, après l'examen, ils m'ont parlé d'une entorse et j'avais un souci au niveau des ligaments. Je ne sais pas exactement le terme technique qui a été utilisé parce que ça fait très longtemps.
Est-ce que vous pouviez poser le pied par terre quand vous marchiez ou vous aviez une béquille, vous étiez immobilisé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
À cette époque-là, je ne pouvais pas poser le pied au sol. je me déplaçais à l'aide d'une béquille. Mmh. Et mmh. ça a duré presque une semaine. Mmh. Et on m'a imposé de suivre certains massages. C'est que j'ai essayé, mais bon, le coût étant élevé, j'ai continué le massage traditionnel. Mmh. C'est où j'ai recouvert un peu de guérison.
D'accord. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que vous avez encore des séquelles de cet accident, par exemple des douleurs ?
Effectivement, effectivement. 10 ans après, à l'époque, je pratiquais du football, bon, du football pour la santé, et sauf que j'ai dû arrêter le football parce que je sentais mal. Bon, maintenant, compte tenu de mon âge, quand même, je tiens à mener une petite activité sportive. Mmh. Donc, je pratique généralement un peu de footing et de marche. Mmh. Et pour y arriver, j'ai besoin constamment d'avoir ma genouillère avec moi, sans quoi je ne peux vraiment pas mener une activité sportive.
Une genouillère, est-ce que ça veut dire en plus que vous prenez parfois des cachets pour vous soulager ou pas vraiment ?
Effectivement. Je prends des cachets pour me soulager, notamment les diclofénac. Mmh. Et j'accompagne avec certains baumes de massage. Et là, je fais ma genouillère pour que je puisse tenir une heure pendant l'activité.
Alors, on va écouter vos questions, justement, Gervais. On comprend que ces questions, elles sont liées à ces, douleurs 10 ans après cet accident. On vous écoute, je vous en prie.
Alors, comme question, puisqu'on a la chance d'avoir un spécialiste devant nous,
oui,
compte tenu de mon âge déjà, j'aimerais savoir si on peut avoir un traitement qui peut nous guérir de ce mal-là sans forcément intervenir chirurgicalement. Voilà.
Donc, se débarrasser des douleurs sans opération, est-ce que c'est possible à 45 ans ? Là, j'ai condensé votre question, Gervais, si vous me permettez. Je me tourne vers l'invité, le docteur Patrick Dian. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Cher monsieur, déjà, je dois dire, à 45 ans, vous êtes jeune encore. Donc, lorsqu'on reprend un peu votre histoire de la maladie, le traumatisme a occasionné certainement une rupture d'un des ligaments croisés. C'est assez fréquent après une chute à moto ou à deux roues. Donc, on peut penser que vous avez eu une rupture soit du ligament croisé antérieur, soit du ligament croisé postérieur. Ce qu'on sait de cette maladie et de ce traumatisme, c'est que 10-15 ans après, donc on est à peu près dans les délais, surviennent des douleurs de manière assez fréquente et notamment lors de la pratique sportive, ce qui vous arrive. Ceci est dû en fait à une atteinte dégénérative cartilagineuse car le genou n'est pas fait pour bien fonctionner sans ligament croisé. Donc ma question, moi j'ai une question à vous poser là actuellement, est-ce que vous êtes instable ? Est-ce que le genou se dérobe ?
Est-ce que quand vous marchez, par exemple, vous sentez que votre genou, il glisse sous vous, vous n'êtes plus stable parce que vous ne pouvez plus vraiment vous appuyer dessus ?
Bon, ça m'arrive. Ça m'arrive quelquefois.
D'accord.
Ça m'arrive quelquefois et souvent, quand c'est le cas, je prends des bombes et tout de suite, je mets ma genouillère. Mais la genouillère, c'est beaucoup plus pour le week-end, lorsque j'ai cette activité sportive. Mais sinon, je marche, je n'ai pas besoin de genouillère.
Très bien. Donc, on peut penser effectivement que c'est une rupture ligamentaire, 10 ans après. Donc, les douleurs sont certainement expliquées par des lésions cartilagineuses, voire des déchirures méniscales aussi. Ça peut être le cas. C'est assez fréquent, 10-15 ans après une rupture ligamentaire. Alors, pour répondre à votre question clairement, le traitement, oui, il existe un traitement médical non opératoire qui consisterait déjà à avoir des examens complémentaires. Aujourd'hui, il faut savoir pourquoi vous êtes douloureux. Donc, les radios et l'IRM, si vous avez accès à ça, ça peut être effectivement une opportunité pour avoir un diagnostic précis. Et après, le traitement peut être basé sur des infiltrations, notamment d'anti-inflammatoires puissants que sont les corticoïdes, ou de nouvelles molécules comme l'acide hyaluronique, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, qui permettrait un petit peu de protéger votre cartilage et d'éviter d'avoir des douleurs et de protéger votre articulation pour lui permettre de vivre le plus longtemps possible. En fait. Parce qu'il est certain qu'à terme, c'est-à-dire dans 10-15 ans, peut-être même plus, vous aurez peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être besoin d'une prothèse. Voilà un petit peu où vous en êtes.
Docteur Dian, ces soins, ils sont dispensés par des spécialistes dans quelle discipline ? La rhumatologie, par exemple ?
Oui, ce sont des rhumatologues qui font ce type de traitement. Donc, je vous conseille effectivement de vous rapprocher d'un rhumatologue déjà pour essayer d'avoir un bon diagnostic et ensuite d'envisager le traitement avec lui ou elle de façon à pouvoir améliorer votre qualité de vie et vous permettre d'avoir une activité physique. Mais Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, il faut continuer à avoir cette activité physique, c'est important. Ce que vous faites est bien parce que vous restez musclé et les muscles sont fondamentaux pour votre genou actuellement car c'est eux qui sont responsables de la stabilité du genou. Donc je vous pousse à continuer cette activité malgré les douleurs et vous rapprocher d'un rhumatologue pour organiser ce traitement.
Et cette prise en charge. Voilà pour ces réponses. Un grand merci à vous, Gervais. Bonne journée au Cameroun. Docteur Patrick Dion, on va poursuivre notre échange. On prendra bien sûr d'autres auditeurs en ligne juste après. Roger et Tiwa Savage avec Thomas Thomas dans Priorité Santé sur RFI.
Cause I am the main man. One of one, 10 over 10. Nobody better. They eat whatever I sell. But I got my Gucci, I guess. Party I really, I wear. I eat too fresh, I'm aware. Not on my level from where to where to where. What are you trying to tell me? You've never ever seen a very humble cocky nigga like me. Yes, I go invite all my trolls to come party with me someday. Cause all in the end, I still want nothing spoiled, so me so move away, move away, move away from my section. Look away, look away, I go give you too much pressure. Put it, put it, number one on me, shake, push it. Track it, push it, push it, mommy, ah. Hola, come on, vibe, oh, say me, I know me rude. Wow, so you know me, baby, may I know. I get party early, I wear. I eat too fresh, I'm aware. Not on my level from where to where to where. ABG bag, me give them back to back. Be my shame, calling me one koja koja. She make I clear you, clear you. How you dey before Lagos? Me money no finish for pocket, it cause it finish. Rain they fall, no means the storm is over. So no go the phone, but nothing they bother. I'ma charge it over. One person no fit to cover my guy. 24/7 me, oh one name of him, calculate my canna. Hola, como va y vos, eh, me, I know me rule. Wow, so know me, baby, me, I know you. Hola, como va y vos, eh, me, I know me rule. Wow, so know me, baby, me, I know you. One of one, 10 over 10, nobody better. They eat whatever I said. But I got my Gucci, I guess.
Priorité santé sur RFI, protéger et prendre soin de ses genoux. Toujours avec nous, le docteur Patrick Dian, chirurgien orthopédiste, traumatologue à la clinique Nollet à Paris. Docteur en matière de prévention, vous qui enseignez à l'INSEP, hein, cette grande structure dédiée au sport, à la prévention en santé pour le sport, est-ce qu'il y a justement des pratiques en particulier qui présentent un gros risque de traumatisme ?
Vous parlez de pratiques sportives ?
Sportives, y compris à niveau professionnel, pour des champions. Est-ce qu'il y a des champions auxquels on dit d'être particulièrement attentifs à leurs genoux par rapport à la sollicitation liée à la pratique ?
Bien sûr. Oui, on distingue les activités sportives différentes en fonction du pivot. Par exemple, vous pouvez avoir des pivots en jouant au basket et puis des contacts. Donc, comme les sports sont un peu différents, les sports les plus traumatisants pour le genou sont les sports qu'on appelle pivots et contacts, c'est-à-dire le basket, le football, le rugby, qui sont des sports où il va y avoir et des torsions du genou et des contacts par des adversaires qui vont provoquer des accidents. Donc ça, sur ce type d'activité sportive, il y a une prévention qui est faite là actuellement avec des programmes qui sont faits régulièrement lors des entraînements, lors des échauffements, etc. de façon à pouvoir éviter ce type de traumatisme. Donc là maintenant, les entraîneurs ont beaucoup travaillé avec les médecins de façon à pouvoir organiser en fait une prévention de ces ruptures ou de ces traumatismes de façon à protéger l'articulation du genou.
Je pensais aussi à certaines professions qui sollicitent énormément les genoux. Je vois les plombiers, les maçons qui sont à genoux en permanence pour travailler. Il y a même des protections, hein, des petits coussinets qu'on peut mettre pour se protéger, parce que ça fait mal au bout du compte, et j'imagine que ça peut même abîmer le genou.
Oui, vous avez raison. Le travail à genoux, le travail en accroupissement provoque effectivement des lésions. Ça peut provoquer des déchirures méniscales, des lésions cartilagineuses. Les protections sont effectivement bien recommandées, mais le plus important est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre du poids au cours de la vie. Il faut avoir une activité physique parallèle de façon à éviter ce type de problème. Donc c'est un petit peu mixte.
Alors, c'est maintenant pour la Guinée qu'on part retrouver un auditeur en ligne. C'est avec nous Célou qui est en ligne. Célou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes à l'Abbé, Célou. Vous êtes âgé de 42 ans. Vous avez une première blessure au genou. Ça remonte à quand précisément ?
Bon, ma première blessure au genou, c'est il y a très longtemps, j'étais plus jeune, je faisais du foot. Donc j'ai eu les ligaments croisés au côté gauche du genou, voilà, du pied. Et ensuite, j'ai eu un deuxième accident de moto sur le pied droit, là aussi, ligament croisé.
Donc, dans les deux cas, votre ligament a été touché, c'est Lou. Et à chaque fois, vous avez consulté un médecin. Il y a eu une prise en charge derrière ?
Bon, la première fois, je n'ai pas vraiment consulté de médecin. On avait juste immobilisé la jambe. Ça s'est guéri. Ça a mis des mois, ça s'est guéri. La deuxième fois, on a consulté un médecin. Je suis allé à l'hôpital, tout et tout. Ils m'ont plâtré le pied. Ils m'ont dit qu'il faut que ça reste immobile pendant quelques mois. Et après, on a enlevé, c'était bon, mais j'ai toujours des douleurs quand je marche.
Et dans votre activité de tous les jours, par exemple, au niveau professionnel, c'est quelque chose qui vous embête ?
Bien sûr, ça m'embête beaucoup parce que je suis guide et je faisais beaucoup de randonnées. Maintenant, j'en fais moins, je fais que 2 heures, alors que mon activité principale, c'est vraiment organiser des circuits de randonnée.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la nature de ces douleurs, justement, quand vous marchez un petit peu longtemps ? Qu'est-ce que vous ressentez précisément ?
Au fait, ça fait comme si ça chauffe. Surtout les descentes, quand je dois faire les descentes, c'est vraiment très, très pénible. Donc, du coup, maintenant, j'ai peur de vouloir faire beaucoup de marches. Donc, ça me fatigue. Je ne sais pas si vous avez des conseils ou quelque chose à me donner pour guérir ça ou faut que je retourne à l'hôpital.
Oui, pour vous soulager. Ben, c'est vrai qu'en général, quand on pose la question et quand on a des douleurs, on conseille très souvent aux auditeurs de retourner consulter, mais on peut déjà avoir un premier éclairage avec le médecin qui est avec nous en studio, docteur Patrick Jean. Protéger ses genoux quand on marche pendant plusieurs heures et qu'on ressent encore des douleurs après plusieurs traumatismes.
Alors, c'est assez fréquent, en fait, ce que vous avez, monsieur. Vous savez qu'au football, la rupture du ligament croisé antérieur est quelque chose d'assez fréquent. On le voit souvent. Le deuxième traumatisme que vous avez eu est un traumatisme à moto. Et on sait que la moto, c'est un traumatisme à haute énergie. C'est-à-dire que l'énergie qui a nécessité la rupture ligamentaire est plus importante que dans le cadre du football. Et vous êtes gêné, si j'ai bien compris, plus au niveau du genou droit que du genou gauche. Et si j'ai bien compris, vous souffrez de douleur, mais aussi d'appréhension. Est-ce que vous avez un genou qui se dérobe aussi ? Est-ce que vous sentez que le genou peut partir sous vous ?
Oui, c'est ça. Surtout dans les cas de descente, donc ça me fait peur.
Alors, c'est assez classique. Hein, ce que vous décrivez, c'est vraiment les séquelles de la rupture ligamentaire. Pour répondre un peu à votre question, la consultation me paraît importante parce que ça permettrait un petit peu de savoir exactement quel est le type de laxité, c'est-à-dire l'examen permettrait de voir si les mouvements anormaux induits par la rupture du ligament sont importantes. Pour pallier à ça, l'intervention qui consisterait à reconstruire un ligament croisé antérieur pourrait être proposée chez vous parce que vous êtes quand même très jeune, vous continuez à avoir une activité physique importante et ça permettrait de stabiliser votre genou et de stabiliser aussi vos douleurs. C'est certain qu'une opération comme ça permet effectivement de se sortir des problèmes, mais vous allez avoir une rééducation qui va être très longue, donc il faut penser à ça aussi. Après, d'un point de vue fonctionnel, on peut vous proposer aussi le port d'une genouillère lorsque vous faites de la randonnée. Ça permet effectivement de stabiliser, entre guillemets, votre genou et de vous permettre d'éviter d'avoir surtout des douleurs. La deuxième chose que je vous recommanderais en tant que guide touristique, pratique, c'est d'avoir des bâtons pour marcher. Parce qu'en descente, ça vous permettrait d'appuyer une partie du poids de votre corps sur les bâtons et d'éviter, autant que faire se peut, ces douleurs. Et surtout, il faut continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire vous êtes sportif. Moi, je vous pousse à continuer à une activité sportive pour pouvoir rester musclé. Encore une fois, les muscles, c'est super important lorsqu'on a une lésion ligamentaire.
C'est Lou, est-ce que vous avez les moyens justement de financer ce petit investissement, si j'ose dire, genouillère et bâton de marche?
Oui, genouillère et bâton de marche, oui, je peux.
C'est une première intention. Après, ouais. C'est vrai que vous devez consulter, ça on l'a bien compris suite à l'échange avec le docteur Jean, mais dans un premier pas au moins, pour vous sécuriser, pour avoir moins peur dans les descentes, et puis vous pourrez d'autant mieux guider les personnes que vous accompagnez, être plus efficace dans votre travail, et surtout dans vos têtes, être beaucoup plus rassuré. Un grand merci pour cet appel. Et c'est de la Côte d'Ivoire que Kumba nous envoyait un message sur notre répondeur au 33 7 61 18 46 41. Sa voix a été modifiée, bien sûr, pour des raisons d'anonymat. On l'écoute.
Bonjour à tous, c'est Kumba. Je vous appelle d'Abidjan. J'ai juste des picotements et des douleurs quotidiennes en position assise ou debout. Les picotements, c'est au niveau du genou et les fourmillements, c'est au niveau du pied. Tout ça, côté droit, depuis environ 4 ans. Je prends au petit déjeuner 2 croissants et du sucre. Je fais 1m68 pour 64 kilos. Alors ma question est, vu que avec la cigarette et l'alimentation, est-ce que c'est ce qui peut expliquer les douleurs que j'ai ?
Docteur Patrick Jean Kumba, donc on a compris, elle n'est pas en surpoids, elle a des fourmillements, des picotements au niveau du genou, elle se demande s'il pourrait y avoir un lien avec son alimentation. Alors évidemment, on ne fait pas de voyance ni de diagnostic à distance, mais est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des liens ou pas vraiment ?
Non, il n'y a pas de lien. Non, rassurez-vous, l'alimentation ou le tabac ne sont pas en cause dans votre cas. Je pense qu'il faut certainement rechercher une autre cause que le genou, parce que ce que vous décrivez, c'est à deux endroits. Il y a un endroit sur le genou et des fourmillements dans le pied. Ça m'évoque plus une symptomatologie plutôt lombaire, avec peut-être un pincement sur un nerf, comme une sciatalgie qui pourrait donner ce type de symptômes. Donc moi, je vous propose de vous rapprocher d'un hôpital ou d'un médecin pour pouvoir avoir un examen clinique déjà, voir s'il y a des déficits ou pas neurologiques, et puis avoir des examens complémentaires qui pourraient permettre d'avoir un diagnostic précis.
Donc une consultation. On passe à un auditeur du Mali, c'est Moussa avec nous, 29 ans. Moussa, bonjour.
Bonjour, la plus représentée, Caroline Parlet.
Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à vos genoux, s'il vous plaît, Moussa?
Ma problème au niveau de mon genou.
Oui.
C'est mon genou qui donne le bruit souvent quand j'essaie de faire certains mouvements, comme si j'essaie de m'asseoir ou j'essaie de me lever. Surtout étant en exercice physique, ça donne des bruits comme on est en train de déchirer un papier. Souvent ça craque aussi.
Des bruits bizarres quand Moussa fait des mouvements. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a des explications par rapport à ça, docteur Patrick Jean?
Oui, c'est assez fréquent en fait, les craquements intra-articulaires. On observe ça d'une manière quotidienne. C'est pas une pathologie pour moi. À partir du moment où il n'y a pas de douleur ou de symptômes comme des gonflements du genou, ça ne doit pas inquiéter effectivement notre jeune patient Moussa qui doit continuer à faire du sport. Ça, c'est je le dis encore une fois. Mais je pense que sa symptomatologie n'est pas inquiétante.
Donc, on peut s'inquiéter de quelque chose de bizarre, mais finalement, il n'y a pas une maladie derrière. C'est ça ce que vous êtes en train de dire à Moussa.
Tout à fait.
On vous remercie beaucoup pour votre appel et on part sans délai pour le Sénégal. Donner la parole à l'un de vos confrères.
RFI à Dakar. 92 FM.
Avec nous, c'est le professeur Mouamadou Habibsi. Bonjour, professeur.
Bonjour, Madame Paris.
Vous êtes chirurgien orthopédiste, enseignant-chercheur, directeur de l'Institut d'orthopédie Seydi Djamil de Dakar. Professeur, quel est le principal symptôme qui conduit, chez vous à Dakar, les patients à venir consulter pour un problème au niveau du genou dans cette structure où vous exercez votre spécialité en orthopédie?
Alors, vous me permettrez tout d'abord de préciser que le genou constitue une articulation mobile extrêmement importante et souvent lors du raccourcissement de l'allongement du membre inférieur, donc cette situation est requise dans certaines circonstances de la vie, qu'il s'agisse de la vie sociale, de la vie professionnelle ou sportive. Et à ce titre-là,
excusez-moi, je vais vous interrompre, professeur Si, parce que c'est très dommage de rater l'échange téléphonique qu'on a ensemble parce que la qualité de la ligne n'est pas bonne. Comme on dit, on raccroche, on vous rappelle tout de suite et on va donner en attendant la parole à un auditeur que l'on va appeler pour justement un problème également qui concerne son genou. On a Paisible en ligne avec nous. Paisible qui est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Paisible avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 21 ans, Paisible. Il y a quelques mois, vous avez eu deux maladies tropicales, le paludisme et la typhoïde. Comment est-ce que vous portez aujourd'hui, Paisible ?
Bon, je porte un peu bien les douleurs, les picotements. Les faiblesses, bon, ça continue toujours.
Ce que vous nous expliquez, Paisible, c'est que plusieurs mois après ces fièvres, plusieurs mois après ces infections qui sont dues à deux agents différents, hein, la typhoïde et le paludisme, eh bien, vous avez aujourd'hui un ressenti au niveau de vos articulations, vous avez des douleurs, c'est ça?
Ah oui, bien sûr. Mais lorsque j'ai utilisé certains médicaments, j'ai eu quelques sentiments, mais surtout les picotements là et les douleurs dans les cuisses continuent toujours à se manifester.
Dans les cuisses également, dans les genoux?
Ah oui, même si dans les bras aussi, sur la poitrine.
Est-ce que ces douleurs paisibles, elles sont associées à une fatigue généralisée?
Vous dites?
Est-ce qu'il y a une grosse fatigue avec ces douleurs?
Ah oui, bien sûr.
Et donc, vous avez des questions par rapport à ces douleurs. On a compris, vous êtes très jeune, 21 ans, et vous pensez que ça ressemble à des rhumatismes?
Oui, bien sûr. Mais c'est pourquoi j'aimerais avoir aussi la différence entre les rhumatismes et la névralgie.
Les rhumatismes et quoi? J'ai pas compris la deuxième partie de votre question.
Et la névralgie.
Là, c'est très, très clair. Je me tourne vers notre invité en studio. On va retrouver le professeur Si dans quelques instants. Professeur Patrick Jean, une infection suivie de douleurs, comme le ressent cet auditeur au Congo. Est-ce que vous avez des éléments d'explication? Et puis, sur cette question très importante, différence entre des douleurs neurologiques, névralgie, et des rhumatismes?
Alors, c'est assez fréquent de voir au décours du paludisme et d'une atteinte par la fièvre typhoïde d'avoir des douleurs articulaires et des douleurs musculaires. C'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est assez fréquent. Ça ne veut pas dire que l'articulation ou les articulations sont atteintes en elles-mêmes, mais elles sont le témoin très certainement d'une réaction immunitaire qui provoque ces douleurs. Donc moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez eu un traitement pour cette fièvre typhoïde? J'imagine que oui, parce que le traitement qu'on recommande actuellement, c'est les antibiotiques. Avez-vous eu des antibiotiques?
Paisible, est-ce qu'on vous a donné des antibiotiques contre la typhoïde?
Bien sûr. Et aussi la malaria, parce qu'on les avait diagnostiqués l'été à un moment.
Donc, il a eu un traitement pour les deux maladies en même temps.
Bon, il faut vous rapprocher du médecin qui vous a traité, parce que ce qu'on observe assez fréquemment, ce sont des douleurs musculaires et articulaires qui vont passer avec le temps. Et il faut effectivement plusieurs mois pour pouvoir retrouver une indolence complète au niveau articulaire. Alors, pour ce qui est de la névralgie, c'est un problème un peu différent. La névralgie, comme vous le soulignez, madame, c'est effectivement un problème plutôt neurologique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un pincement suite à une hernie discale, qu'elle soit lombaire ou cervicale, qui peut provoquer une névralgie. Donc là, je vous conseille aussi de vous rapprocher du médecin qui vous a traité pour avoir un bon examen clinique déjà et lui parler un peu de tous ces symptômes, parce que on doit pouvoir agir sur ces symptômes médicaux. Vous n'avez pas besoin de chirurgie, mais la médecine peut vous aider effectivement en traitant au cas par cas ces différents problèmes. Et rassurez-vous, ce sont des choses qu'on connaît bien et qui vont disparaître avec le temps, mais il faut plusieurs mois effectivement. Et je sais que vous êtes déjà à 4 mois par rapport à l'infection, mais il faut certainement un peu plus de temps pour avoir une indolence.
Je me retourne vers notre invité à Dakar, professeur Mouhamadou Habib. Si on vous a retrouvé, on a eu ces premiers éléments de réponse par rapport à notre auditeur de Goma, par rapport à cette fatigue. C'est quelque chose que vous constatez aussi souvent en post-typhoïde ou en post-palu, justement des douleurs récurrentes à des niveaux osseux ou articulaires ?
Disons peut-être pas directement en post-palu, en post-typhoïde, dans les circonstances non individuelles, oui, notamment dans les hématismes.
C'est désolant, mais on ne vous comprend pas parce que la ligne est complètement hachée. On réessaye une dernière fois. On ne baisse pas les bras facilement dans cette émission, donc on va quand même essayer de pouvoir échanger parce qu'on sait qu'en préparant l'émission, on le sait, il y avait des éléments très, très intéressants à échanger avec vous pour cette émission. On a une autre question d'auditeur. C'est un auditeur qui, depuis l'adolescence, hein, Tierno, explique qu'il a des douleurs quand il fait du sport et y compris quand il fait assis. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'émission, on a des auditeurs qui, en général, parlent de problèmes de douleur quand ils sont sollicités. Est-ce qu'on doit particulièrement s'inquiéter, docteur Jean, si on a des douleurs carrément au repos, voire pendant le sommeil, au niveau articulaire, au niveau des genoux ?
Alors, déjà, pour cet auditeur, Tierno, il faudrait savoir s'il a eu un traumatisme ou pas. Mmh. Parce que ça serait intéressant de savoir un peu l'histoire de sa maladie. S'il n'a pas eu de traumatisme, on peut avoir effectivement des douleurs qui surviennent lors du repos et qui sont très certainement le témoin de lésions cartilagineuses. Et notamment lorsqu'il précise qu'il a des douleurs en flexion, ceci oriente plutôt vers des lésions cartilagineuses rotuliennes. Même à son âge, il est jeune, on peut avoir des malformations rotuliennes ou de l'extrémité inférieure du fémur qui peuvent provoquer des lésions cartilagineuses et donner des douleurs de repos.
Par rapport aux prises en charge que vous avez, c'est vrai que quand on est en contexte tropical, on peut avoir d'autres atteintes particulières qui vont être, par exemple, liées à des problèmes de croissance, voire de malnutrition, des maladies qui ont disparu ici. Je pense, par exemple, au rachitisme ou à des maladies infectieuses qui sont beaucoup moins fréquentes avec des atteintes osseuses, je pense à la tuberculose. On peut avoir des tuberculoses qui se déclarent au niveau du genou ?
Oui, bien sûr. Oui, on appelle ça des tumeurs blanches. Et fréquemment, ce sont des genoux qui sont gonflés et qui peuvent effectivement évoquer cette tuberculose osseuse sans avoir de notion de tuberculose pulmonaire. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent. On en voit de nouveau, alors qu'on avait eu une période un peu d'accalmie dans le temps, et de nouveau, on voit ces tuberculoses osseuses apparaître. À ce moment-là, il faut avoir effectivement recours à des ponctions, des analyses bactériologiques, et le traitement antibiotique permet de guérir ces atteintes tuberculeuses. C'est assez long, hein. Il faut 12 à 18 mois de traitement pour pouvoir guérir ce type de traitement, mais on y arrive.
Merci beaucoup, hein, docteur Patrick Jean. Peut-être en toute conclusion, c'est un message vraiment que vous avez répété, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment parlé de la prévention pour protéger les genoux, pour les garder en bonne santé tout au cours de la vie. Il y a le critère du surpoids à éviter, le critère de l'activité physique. Vous dites quoi aussi si jamais il y avait, on imagine, des parents qui arrivent en disant « moi j'ai envie que mon enfant il garde des genoux toute la vie en bonne santé », ce serait quoi les grands conseils, vraiment les grandes lignes directrices ?
Vous l'avez dit, c'est une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il faut effectivement faire attention à son poids, éviter de manger trop gras, trop sucré, ça on le répète assez souvent, et surtout de garder une activité physique régulière, mais raisonnée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire de nos enfants des sportifs de haut niveau, ça c'est quelque chose qu'on peut effectivement avoir comme idée, mais il faut garder une activité physique raisonnée, de façon à avoir quotidiennement de la marche, une activité physique qui est basée peut-être sur la pratique du vélo, de la natation, de la course à pied. Déjà, c'est déjà très bien et ça permet effectivement de garder une longévité à nos genoux.
Un grand merci pour votre éclairage, hein, docteur Patrick Jean. Nos excuses au professeur Si, on a fait notre possible, mais hélas, ça n'a pas fonctionné. On va parler encore prévention dans un autre domaine, cardiovasculaire. Ce sera juste après ce titre de Dawn Delin, Sonmei sur RFI.
Je one on the soleil. Oui, pas tes vrais pour souffrance, mais aider à dans son mail. Mais dis one on the soleil.
Il y a deux mondes en un abyss pas. Faut vraiment demander fort à qui.
C'est vrai pour souffrance, mais tu es dans son nez, t'es dit ouais dans notre soleil. Oui, pas tes vrais pour souffrance, mais tu es dans son nez, t'es dit ouais dans notre soleil.
Le Mois du Cœur, une initiative d'une association que vous présidez, la Fondation Cœur et Recherche. Professeur Ariel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de cardiologie à l'hôpital Saint-Antoine, hôpital Tenon, APHP à Paris. Alors l'enjeu de ce Mois du Cœur, bien sûr sensibiliser sur ces maladies cardiovasculaires qui constituent toujours la première cause de mortalité à l'échelle planétaire. Alors c'est forcément un enjeu de santé publique, mais vous insistez bien sur un point, professeur. Faire passer les messages, sensibiliser sans culpabiliser. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Merci de me donner la parole. Et en effet, je pense que la démarche aujourd'hui doit être d'essayer d'assurer auprès des futurs patients une prise de conscience de ce que l'on appelle la bonne santé cardiovasculaire, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exposition à des risques et donc secondairement à l'apparition d'une maladie. Donc quelques exemples rapides. L'obésité, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la sédentarité, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, ce sont donc des facteurs de risque, c'est-à-dire qui exposent nos futurs patients à une pathologie cardiovasculaire avérée, l'infarctus du myocarde. Et donc notre idée, ce serait de transmettre au plus grand nombre, au travers du soutien à la recherche, une prise de conscience qui est que corriger précocement un facteur de risque prévient le risque d'apparition d'une maladie qui malheureusement surviendra dans les années qui suivent. Donc c'est une prise de conscience, mais sans culpabiliser. Notre idée vraiment, c'est d'accompagner la prise de conscience de nos patients en assurant la promotion de la recherche cardiovasculaire, en découvrant ces facteurs de risque, en les démembrant, mais sans mettre en permanence du doigt le risque de maladie. Voilà,
mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, cette prévention, en même temps, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas manger fast-food, vous croyez que ça passe vraiment auprès des jeunes ?
Non, moi je pense comme vous. En tout cas, il faut qu'on s'habitue à faire le grand écart, c'est-à-dire d'abord prévenir nos jeunes qui s'exposent à un risque cardiovasculaire ultérieur. Ça, c'est une donnée fondamentale. À 7 ans, il y a une partie, malheureusement, du destin qui est écrit lorsqu'on a les facteurs de risque que vous avez indiqués. Mais d'autre part, je pense que puisque ces messages n'ont pas été entendus, je pense qu'il faut continuer, mais en changeant la nature du message, s'adresser au plus grand nombre, à l'école bien sûr, à la télévision, déculpabiliser et inciter à investir dans la bonne santé. Et on aimerait bien, vous voyez, que nos jeunes habitants français s'habituent à cette idée que l'exposition à un risque survient très précocement et que malheureusement, le risque est cumulé. Par exemple, l'environnement, ça contribue malheureusement à augmenter le risque cardiovasculaire, l'addiction. Donc tout cela, je pense, ce sont des messages qu'il faut répéter de façon itérative, mais sans mettre le plus grand nombre dans cette situation insupportable de dire « t'es trop gros, tu cours pas assez, tu as du diabète ». Voilà, ça c'est inaudible. Par contre, ce qui est audible, c'est veiller à quelques éléments simples qui permettent de dire « je suis en bonne santé ». Et donc, au travers du soutien que l'on apporte justement à cette démarche et à la diffusion de cette démarche, la déculpabilisation devrait permettre peut-être à terme de faire mieux que ce que l'on a fait. Et nous savons, nous, que ce discours, les autorités publiques, le ministère maintenant de la Santé, dirigé par un cardiologue, sont sensibles à ce message qui est que peut-être que la recherche en santé cardiovasculaire est insuffisante dans notre pays, malgré les investissements. Vous savez que les Anglais investissent 8 fois plus d'argent que nous dans la recherche cardiovasculaire pour les fonds publics, et la générosité de la France et des Français pour la promotion de la recherche peut être encore améliorée, parce que ça permet de diffuser des messages simples, vraiment. Par exemple, la femme est exposée à un risque cardiovasculaire différent de celui de l'homme.
C'est ça. Alors, aussi, communiquer différemment en fonction des profils et de certains préjugés contre lesquels il faut lutter.
C'est notre idée, oui, parce que ce que l'on a fait jusqu'à présent est bien, mais c'est insuffisant, parce que vous l'avez rappelé, c'est une cause majeure de morbi-mortalité cardiovasculaire, donc d'exposition à la maladie et d'exposition au risque de mort prématurée, et ça, ça devient insupportable, même si les chiffres INSERM sont rassurants, 80 ans à peu près pour l'homme, 85 ans pour la femme, on peut encore faire mieux en quantité et en qualité de vie, en veillant à la correction des facteurs de risque et donc à la prévention de l'exposition à la maladie qui malheureusement sera un coût en quantité, en qualité de vie ultérieure, sans parler du coût pour la société.
Ça veut dire en parler sans pointer du doigt forcément les personnes qui sont déjà malades, c'est une première chose. En augmentant le budget de la recherche, c'est pas vraiment dans l'air du temps, il nous reste 30 secondes, c'est pas vraiment la tendance actuelle.
Non, vous avez raison, mais déjà on fait pas mal, on peut faire mieux. Je pense qu'il faut faire un appel au grand public pour soutenir notre fondation Cœur Recherche, car nous contribuons à notre place à mieux diffuser la connaissance, à élaborer des hypothèses sur la meilleure détection de ces maladies, et donc faire mieux pour réduire le risque cardiovasculaire dans notre pays. C'est notre objectif ultime.
Une approche globale. Un grand merci à vous, professeur Cohen. Très bonne journée. Priorité santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Demain, on va parler de l'impact de l'addiction pour la famille. Comment la dépendance d'une personne, père, mère, frère, sœur, peut miner l'environnement familial. Quel retentissement, quel accompagnement. Auprès de qui chercher un soutien. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.